Le 1er juin dernier, lorsque Donald Trump décide de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, ce moment marque non seulement un tournant dans les relations avec le reste du monde, mais il représente aussi une déclaration de guerre adressée au reste de l'humanité. Telle est du moins l'interprétation du philosophe Bruno Latour qui, dans son nouvel ouvrage « Où atterrir ?», publie un réquisitoire contre les élites climato-négationnistes et propose une réorientation de la politique avec un nouveau monde basé sur le terrestre. Critique de l'écologie et de la nature fourre-tout, Bruno Latour est l'invité dans un instant de La Tête au Carré, avec vos messages et vos questions qui arrivent sur franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, les découvertes majeures de l'astronomie gravitationnelle.
Oui, et la date du 17 août 2017 qui restera dans l'histoire, c'est la première fois que les ondes gravitationnelles et les ondes lumineuses sont utilisées ensemble pour sonder l'univers. On fait beaucoup de découvertes et on reçoit Marianne Bizouard pour toutes les commenter.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la science grand format sur France 5 avec aujourd'hui un documentaire consacré au célèbre site des pierres levées de Stonehenge. Sophia Leglen réalise l'émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno Latour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité dans un instant à l'occasion de la publication de cet ouvrage « Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ?» Alors justement, c'est de la politique fiction ou un vrai programme de géopolitique que vous proposez là dans ce livre ?
Non, c'est de la géopolitique.
Oui.
Établi avec une hypothèse de politique fiction.
Ça pourrait être aussi un vrai programme politique.
Non. Parce que l'idée, c'est pas de faire un programme. L'idée, c'est de se préparer à en faire un. Exactement.
Oui,
c'est pas aux intellectuels de faire des programmes. Ni d'ailleurs aux politiques, à mon avis.
Ah oui ?
Non. Les politiques, ils peuvent juste écrémer un travail politique qui est fait ailleurs. Il ne faut pas confondre la crème et le lait.
Oui. Et à qui s'adresse cet ouvrage, alors, en particulier ?
Ceux qui sont dans le lait, plutôt.
On va se retrouver dans un instant pour discuter donc de ce plaidoyer européen, d'ailleurs on verra, qui vise à nous faire atterrir sur Terre. Bruno Latour, les auditeurs nous rejoignent avec les messages. Une véritable révolution scientifique qui s'est passée le 17 août dernier, puisque pour la première fois, les détecteurs à ondes gravitationnelles LIGO et Virgo, ainsi que 70 télescopes et observatoires dans le monde, ont suivi le même événement, vieux de 130 millions d'années, la fusion de deux étoiles à neutrons. Axel Villard.
Oui Mathieu, et pour comprendre pourquoi le moment est historique, nous recevons Marianne Bizouard du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne, membre de la coalition LIGO-Virgo, qui sont les deux détecteurs à ondes gravitationnelles américains et européens. Alors depuis hier 16h, c'est plus de 70 publications scientifiques qui ont été dévoilées. Comment on explique une telle richesse autour d'un seul événement ?
Alors, pourquoi ? Parce que c'est une découverte extrêmement importante pour la communauté, pas seulement pour la communauté des gens des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des gens spécialistes de la relativité générale ou de la gravitation, mais c'est aussi une révolution importante pour les astronomes, les astrophysiciens, pour tous ceux qui essaient de comprendre comment l'univers a été formé et comment ils se comprennent les grandes structures et la composition de l'univers, oui.
Quand vous dites c'est important, qu'est-ce qui est important ? Le fait que ce soit des étoiles à neutrons ou le fait qu'on détecte l'événement avec des ondes gravitationnelles et la lumière ?
Alors, le fait qu'on ait détecté, donc quand on a de la matière, quand on a de la fusion de deux étoiles à neutrons, ça provoque donc, ça génère des ondes gravitationnelles. Ça, on l'avait déjà observé avec la fusion de deux trous noirs. Donc, c'est pas la première fois qu'on observe. Maintenant, c'est.
Oui, on est blasé déjà maintenant.
On en est au septième événement, en fait. Ah, oui. Au septième événement de fusion de deux corps compacts. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est qu'en même temps, on a vu donc les effets de matière. C'est-à-dire, on a observé donc l'explosion. La kilonova, c'est-à-dire l'émission isotropique d'énergie qui a lieu juste après la fusion, parce que donc quand on fait collisionner deux étoiles à neutrons, eh bien il y a forcément de la matière qui s'échappe, ce qu'on appelle l'éjecta. Cet éjecta, c'est des neutrons en fait qui vont générer, qui vont fabriquer en fait des éléments, des atomes. Et donc, par réaction radioactive successive, ça va former les différents atomes qui composent l'univers, donc en particulier des éléments lourds.
Ouais. Les métaux lourds, c'est ça ?
Les métaux lourds comme l'or, le plomb, ouais. Le césium, l'uranium, tous ces éléments-là, l'hypothèse qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'ils étaient formés dans de tels objets qu'on n'avait jamais observé, on n'en avait pas la preuve. Et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on a enfin observé une kilonova. Depuis le début, c'est ça, et grâce aux ondes gravitationnelles, parce que le signal d'onde gravitationnelle a donné le T0, le temps initial. Donc c'était à 14h41, autant que je me souvienne, heure de Paris, l'événement. On l'a su tout de suite. On a émis une alerte, donc on avait un réseau d'alerte avec une soixantaine de groupes partenaires, donc des télescopes dans le monde. On a émis cette alerte, ils ont eu le temps de se préparer. Alors, c'est des groupes qui ont des télescopes un peu partout dans le monde, à la fois au Chili, en Australie, partout, en Asie, en Europe, un peu partout. Et donc, et ils fonctionnent en réseau.
Tout le monde a braqué son télescope au même endroit ?
Non. Alors, justement, les astronomes ont attendu d'être d'être en position d'observation. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps. Et c'est ça que, par exemple, ceux qui devaient observer parce que la première observation du signal optique, ou même en ultraviolette, donc c'est vraiment la première longueur d'onde qu'on pouvait observer, ça s'est fait au Chili, sur des télescopes, par exemple, de l'ESO, au Chili. Et ça, ils ont eu une dizaine d'heures pour se préparer, pour savoir à peu près où chercher. Donc, tout gérer, tous leurs télescopes sont automatisés. Mais là, ils sont intervenus parce qu'ils savaient, ils avaient compris tout de suite que c'était un événement fondamental.
Chapeau. Combien de scientifiques se sont mis sur le qui-vive autour de cet événement ?
Alors, sur le qui-vive, alors, il y avait déjà les 1000 physiciens, ingénieurs de la collaboration LIGO-Virgo. Ouais. Ça, je veux dire, tous ceux qui n'étaient pas en vacances au mois d'août étaient plus qu'excités. Et puis sinon, il y avait 70 partenaires, mais alors 60, ça veut dire 70 télescopes ou équipes dans le monde. Et au total, en fait, le papier où on résume l'ensemble de cette découverte conjointe, c'est-à-dire ondes gravitationnelles et puis optique, observation astronomique, c'est plus de 3500 signataires. Donc,
ça s'appelle une coalition.
Bruno Latour.
Ça s'appelle une...
Vous avez dit coalition, virgule, les mots.
Une collaboration.
Collaboration,
mais là, ça va au-delà de la collaboration LIGO-Virgo. C'est international. Il y a des équipes de partout dans le monde.
On n'aura pas le temps, je pense, de détailler toutes les découvertes et tous les résultats qui ont été publiés. Peut-être un petit mot sur le nouveau calcul du taux d'expansion de l'univers qui a été possible grâce à cette détection.
Oui, alors là, c'est une des retombées, parce que alors les retombées sont vraiment extraordinaires, mais une des retombées, c'est effectivement la mesure de la constante de Hubble, de manière indépendante des deux autres méthodes. Il y a deux méthodes à l'heure actuelle pour mesurer la constante de Hubble.
C'est quoi la constante de Hubble? Alors, c'est la façon dont l'univers grandit.
C'est le taux d'expansion. Ouais. Voilà, c'est le taux d'expansion de l'univers. On sait que l'univers
se dilate.
Voilà. Et cette constante mesure la vitesse de dilatation. Donc c'est une constante fondamentale de la cosmologie qu'on mesure soit en regardant les supernovas de type 1A. On les observe parce que ce sont ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire qu'on connaît très bien leur luminosité, donc on peut mesurer leur distance en mesurant leur luminosité apparente. Et pour pouvoir mesurer la vitesse d'expansion, il faut aussi avoir une idée de la vitesse d'éloignement de la source, c'est-à-dire ce qu'on appelle le redshift. Il faut avoir ces deux quantités. Dans le cas des ondes gravitationnelles, donc on peut mesurer nous-mêmes la distance, comme le font par exemple les gens qui observent les supernovas, ou alors en regardant aussi le fond diffus cosmologique, le télescope Planck avait fourni une valeur très très précise. Et nous, on vient avec une troisième méthode, indépendante de mesure de la distance. On utilise, alors il faut aussi pouvoir mesurer le redshift de la galaxie haute. Ça, on peut pas le faire. Donc, on a besoin des astronomes pour mesurer le spectre. Ils nous donnent le redshift, on mesure la distance, on en déduit.
Donc là, ça va vous permettre de préciser l'expansion de l'univers?
C'est surtout que c'est une mesure indépendante. C'est-à-dire que maintenant, on a trois moyens indépendants de mesurer la même constante. Et donc, on va pouvoir comparer. Ouais. Alors, pour l'instant, on n'est pas compétitif au niveau de la précision de mesure. Mais avec plusieurs détections, on pourra être compétitif.
Une dernière question, Axel.
Peut-être sur vous, tout ce travail a été mené en 2 mois, puisque la détection, c'était il y a exactement 2 mois. Quelle était l'ambiance au sein de vos laboratoires pour produire tous ces résultats en 2 mois ?
De l'excitation, de la fatigue. Ça a été 2 mois formidables, mais on a besoin de dormir.
Il reste du travail encore ?
Bien sûr, il reste beaucoup de travail. Il y a une reprise de données dans 1 an, ouais. Donc on ne va pas chômer.
D'accord. Bruno Latour, vous citez les ondes gravitationnelles dans votre ouvrage d'ailleurs. C'est quoi ? C'est un bel exemple de nature, justement. Là, on peut vraiment employer le terme nature.
C'est formidable, hein. Les ondes gravitationnelles. Mais quand c'est même. Aussi un des débuts de la sociologie des sciences, justement. Harry Collins, qui est un des fondateurs de la sociologie des sciences, a commencé à observer les prédécesseurs de Madame depuis plusieurs générations, depuis 42 ans quasiment. Et il a écrit le gros livre de sociologie des sciences sur cette extraordinaire activité qui est évidemment sociale, en sens que c'est des collaborations d'une complexité inouïe, et surtout la fabrication des instruments et d'une complexité inouïe, etc. Donc je suis ravi d'être... Mais c'est vrai que c'est quand même formidable.
Ah ouais.
Et c'est commode, si vous voulez, regardez comme elle est heureuse.
Ça rend les scientifiques
pareil,
heureux.
C'est pas du tout pareil que les malheureux qui étudient déjà la chose qui se passe sur Terre.
Ils
sont en controverse épistémologique continue, tandis qu'elle n'a pas de controverse épistémologique, elle n'a que des choses magnifiques.
Ouais. Donc
personne
c'est bien
ne va aller l'embêter, il n'y a pas de
sceptique. On fait beaucoup de sociologie, parce que dans une grosse collaboration, on est des humains.
Est-ce qu'il y a des sceptiques ?
Dans la collaboration, non.
Il n'y en a pas. Dans la collaboration, évidemment, mais en dehors.
Gravity Wave Skeptics.
Il y en avait, si. Il y a encore des sceptiques.
Ah bon. Sur quoi ?
Sur les ondes gravitationnelles. Après la découverte, on a eu quelques sceptiques. Ouais. Mais disons qu'ils sont maintenant marginaux.
Ils sont
alors
pas payés par Exxon.
Ils étaient.
C'est la différence.
Et ils sont peut-être moins payés que...
Merci beaucoup en tout cas à vous pour vos explications. Et puis bravo quand même, parce qu'au travers de vous, c'est des milliers de chercheurs
et beaucoup de
publications qui viennent d'arriver et qui font rêver quand même tout le monde, même s'il y a une certaine complexité à comprendre l'objet de ces travaux.
C'est quand même les nouvelles les plus rassurantes qu'on ait eues
six mois. Il y a
six derniers mois.
Effectivement. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité, une faille de sécurité détectée sur les réseaux Wi-Fi du monde entier. Des chercheurs belges et les autorités américaines mettent en garde contre une faille majeure détectée dans les réseaux utilisant le chiffrement WPA2. Selon eux, la faille rend possible le vol d'informations comme les numéros de carte bancaire, les mots de passe, les courriels et les photos. Selon la configuration du réseau, il est même possible d'injecter et de manipuler ces données. Pour se protéger, l'Agence américaine de sécurité informatique conseille d'utiliser une connexion sécurisée par VPN pour Virtual Private Network, mais un bon vieux câble Ethernet chez vous marchera très bien également. Stress et malbouffe, des effets similaires chez les femelles souris. Des chercheurs chinois ont étudié l'effet d'un stress important sur le microbiote de souris en laboratoire. Grâce à des analyses ADN des bactéries contenues dans leurs crottes, ils montrent que les changements dus au stress sont les mêmes que ceux associés à une alimentation trop grasse, mais seulement chez les souris femelles. Une différence de genre qui a fortement étonné les équipes et qui devra faire l'objet d'autres investigations. Une étude qui devrait également guider les recherches en santé humaine sur le microbiote, où il faudra prendre garde de bien comparer les genres pour voir si des différences existent également. Et puis la symbiose emblématique entre le poisson clown et l'anémone de mer menacée par le réchauffement des océans. En effet, comme le corail, l'anémone blanchit dans des eaux plus chaudes et plus acides. Plus précisément, elle éjecte de son corps les molécules qui lui donnent sa couleur jaune vif et devient donc transparente. Le petit poisson clown qui lui reste tout jaune, devient alors parfaitement visible quand il tente de se cacher dans l'anémone ou d'y enfouir ses œufs. Des chercheurs français ont étudié ce phénomène dans l'île de Moréa en Polynésie et montrent que le succès reproducteur des poissons clowns de l'île a chuté jusqu'à un maximum de 73% pendant la période des fortes chaleurs dues à El Niño en 2015. On parlera également de réchauffement climatique dans un instant avec Bruno Latour.
Thank you. follement fier. Et sur sa mob, il en jette. Quand à Jojo, c'est le métallo. Le soir, après son boulot, il astique sa bécane. Et va draguer les dames dans son lit. Sur ma mob, je suis bien. Je suis bien et je chante. Sur ma mob, je suis bien.
Sur ma mob, Lily Drop à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Bruno Latour, vous êtes l'invité de l'émission cet après-midi à l'occasion de la sortie de ce livre « Où atterrir ?» qui paraît aux éditions de La Découverte et sous-titré « Comment s'orienter en politique ?» Vous êtes philosophe, anthropologue, sociologue des sciences et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de messages sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Bruno Latour, universitaire d'origine bourgeoise et provinciale, enfant du baby-boom, vous écrivez avoir profité à fond de la mondialisation sans avoir oublié le terroir auquel vous attache une famille de négociants en vin de Bourgogne. Êtes-vous un privilégié qui a une dette à régler aujourd'hui?
J'ai une énorme dette. Je crois que comme toute ma génération, on a profité de ce que certains chercheurs appellent la grande accélération. Mmh. On a des enfants et des petits-enfants et on se pose la question, comme beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le climat, qu'est-ce qu'on a fait, rétrospectivement, et qu'est-ce qu'on fait, et comment ça se fait, surtout que les nouvelles que les scientifiques nous donnent sur l'état de la planète ne sont pas transformées aussi rapidement qu'on le voudrait en politique.
Oui.
Donc c'est ça la question qui me hante, disons. Oui. Donc j'ai cherché un peu par tous les moyens, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai écrit des livres sérieux, analytiques, disons. Oui. J'ai exploré les conséquences philosophiques de cette affaire, les conséquences juridiques dans plusieurs livres, mais là... Je me suis dit, il faut essayer de trouver un autre ton.
Ouais, être plus mordant encore. Le ton change, là, visiblement. C'est un brûlot, là. On est quand même face à un brûlot, non?
C'est un brûlot. Il y en a beaucoup, mais politique. C'est-à-dire d'essayer de trouver une tonalité qui permette de modifier un peu les affects que nous avons sur ces questions-là.
Oui. Alors justement, oui, vous parlez beaucoup d'émotions et d'affects aussi dans ce livre.
Ça rend fou la question écologique.
Oui, mais c'est amusant parce que quand on parle de politique, généralement, on accole peu le mot d'affect ou d'affection.
Les passions politiques sont les plus fortes.
Oui.
L'attraction. Les passions religieuses. Ouais. Non, c'est un problème de passion. Mais c'est surtout que ça rend un peu fou. Dimanche dernier, j'étais au Louvre, il faisait un temps magnifique. Tout le monde était dehors. Enfin, comment parler de catastrophe écologique? En ce moment, on a une température idoine.
Ah, c'est pas facile avec le réchauffement climatique.
Mais en même temps, on entend toutes ces nouvelles tous les jours. Et ma question, au fond, thérapeutique, c'est la suivante. Comment vous faites quand vous avez ces nouvelles que vous entendez tous les jours, même si vous ne lisez pas vraiment la littérature scientifique, il suffit de vous écouter dans vos émissions, etc. Et puis en même temps, l'économie repart, tout le monde va bien, la planète va bien. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et donc, il y a une espèce de dissonance cognitive qui est telle qu'il faut que je me suis dit, il faut que je propose une hypothèse un peu différente.
À la fois, on voit quand même aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, beaucoup les internautes associer les événements un petit peu étranges au réchauffement climatique aussi. Il y a quand même cette compréhension.
À la fois, il est partout et en même temps, il est nulle part dans la politique.
Alors, dans la politique, oui, effectivement.
Donc,
mais du côté de la société, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui fait...
Partout, c'est pour ça, c'est mon hypothèse, c'est de dire, mais la question climatique et son déni organisent toute la vie politique, mais de façon un peu cachée. Donc j'ai juste voulu dire, faire une proposition. C'est comme si on avait, tout le monde avait un poste, tout le monde se dit, mais c'est bizarre. Ouais. Dans toutes les élections, les gens réagissent négativement, ils essaient de se resserrer dans des petites frontières. C'est scandaleux, c'est horrible, les gens régressent. Et encore aujourd'hui, dans le New York Times, il y a un très joli article en disant, mais une espèce de balance de l'histoire, on n'est plus en avant, on est maintenant en arrière. Mais non, on est de côté, il s'est passé quelque chose. C'est là l'hypothèse. Il faut ajouter quelque chose pour qu'on comprenne le puzzle. Il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose qui explique cette espèce de situation un peu terrifiante de la politique. Il donne l'impression de régression, qui donne l'impression qu'on ne peut plus aller en avant. Et là, M. Trump, évidemment, a une responsabilité importante. Et... Qui fait qu'on se dit où est-ce qu'on est ? C'est ce où est-ce qu'on est que j'ai essayé de préciser. Ouais.
Alors justement, c'est ce grand flou aujourd'hui aussi qui caractérise un petit peu la situation. Et donc cet événement qui fait date, celui du 1er juin 2017, lorsque Donald Trump se retire donc de l'accord de Paris sur le climat.
Nous sortons. L'accord sur le climat de Paris est simplement le dernier exemple. Washington accepte un accord qui désavantage les États-Unis au bénéfice exclusif d'autres pays. Nous ne voulons plus que d'autres dirigeants d'autres pays se moquent encore de nous. Ils ne le feront plus. J'ai été élu pour représenter le citoyen de Pittsburgh, pas de Paris.
C'est quand même hallucinant, hein, ces propos de Donald Trump, Bruno Latour, non ?
C'est hallucinant.
Pour l'homme qui est quand même à la tête de l'État le plus puissant du monde, qui n'a aucune vision finalement de ce qui se passe en dehors de ses frontières, non ?
Ben si, il a une vision justement, que ses frontières, c'est les siennes et pas celles du reste du monde.
C'est Pittsburgh et pas Paris.
Donc c'est en même temps, je trouve que c'est une utile simplification de la situation. Parce que jusqu'ici quand même, on tournait autour du pot, en disant mais si, on va y arriver, on va s'entendre, tous les pays vont s'entendre, c'est pas un problème, c'est important, etc. Et là, on a clairement l'équivalent technique d'une déclaration de guerre, c'est-à-dire de dire je vous envahis avec mon CO2. Alors nous on l'a fait aussi, n'est-ce pas ? Nous on envahit les pays, on envahit les vous parliez tout à l'heure des atolls qui blanchissent. Ouais. Nous on les envahit aussi, mais on avait l'impression qu'entre disons pays développés, on était un peu dans le même bateau. Et là brusquement, on a une déclaration de guerre explicite qui est dire mon CO2 va vous envahir, mais moi je me fiche de ce qui vous arrive. Donc c'est une situation qui a le gros avantage de ramener la question écologique au niveau de la géopolitique. Parce qu'en fait, on ne savait jamais comment bien se tirer de ces questions d'écologie. Est-ce qu'on doit individuellement changer ou est-ce que ça doit être nationalement ou internationalement ? Évidemment, c'est à tous les degrés. Mais avant la décision de Trump, on n'osait pas dire c'est la question géopolitique fondamentale.
Ouais. Et donc c'est aussi la fin finalement d'un monde partagé, hein, c'est ce que vous décrivez. Il y a le Brexit, il y a Trump avec cette décision-là aussi, et ce renfermement...
Il a toujours, évidemment, ce monde n'a jamais été vraiment commun. Mais il y avait cette idée qu'il y avait un horizon de monde commun que j'associe, disons, à la figure du globe, qu'on utilise quand on dit globalisation. Mais si vous réfléchissez 5 minutes... Dans la globalisation, on nous a jamais dit exactement à quoi ressemblait le monde de cette globalisation. Ça allait être quoi ? On allait manger quoi ? On allait être combien ? On allait être où ? On va avoir quelle ville ? On va avoir quel moyen de transport ? Tout ça, ça restait très vague. Il y avait une espèce de vision futuriste, évidemment. Mais il n'y avait pas de version réaliste de cette description. Et donc, brusquement, je crois que l'exemple... Enfin, moi, je simplifie au maximum pour pouvoir... disons, faire réfléchir les gens à une autre façon de faire de la politique. Brusquement, on se dit, mais en fait, ce monde vers lequel on est global, il attire plus ou il est plus là. Et donc, c'est ce qui expliquerait cette espèce de réaction universelle qu'on retrouve dans les dernières élections autrichiennes, aussi bien que dans le Brexit, et évidemment dans Trump. C'est ça l'idée. C'est très simple, en fait.
Alors, vous poursuivez justement les grands thèmes qui vous intéressent depuis toujours, hein, sur la modernité, sur la Terre, sur Gaïa, sur le changement climatique aussi. Qui sont les modernes, d'ailleurs, dont vous parlez, Bruno Latour ? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme de moderne ?
Les modernes, c'est un concept, c'est pas un peuple particulier. C'est tous ceux, en fait, modernes, ça veut dire, si vous hésitez sur la question d'avenir, vous êtes un archaïque. C'est une façon de dévaloriser la discussion concernant les choix qu'il faut faire sur quelles usines, quelle nourriture, quelle forme de vie, quel habillement, etc. Si on vous dit, ah oui, mais il faut aller vers la modernité, ça décrédibilise ceux qui critiquent. Et c'est ce qui se fait. Enfin, en fond, il n'y a pas de contenu au mot moderne, parce que moderne, ça n'a jamais voulu dire quelque chose de précis. Par contre, ça veut dire ceux qui hésitent sur la question du sens du futur, disons, que ça soit au slogan « modernisez-vous », sont des gens qu'on peut disqualifier. Et donc ça enlève des capacités de résistance qui maintenant nous manquent.
Ouais. Alors on disqualifie, puis on nie également aussi certaines vérités. Et autour du climat, on voit ce qui se passe. Il y a ces climato-négationnistes dont vous parlez, par exemple.
Ben, c'est eux qui, je pense, organisent un peu, clarifient de nouveau l'affaire. C'est une histoire que je suis depuis très longtemps, parce que on les appelait d'abord climato-sceptiques.
Ouais.
Il y avait encore, dans les années 90, une raison d'être sceptique, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire mort, plus de recherche. Et puis, évidemment, après les années 90, sceptique a voulu dire on arrête la recherche et on nie l'existence des faits. Alors ça, c'est pas du tout le sens traditionnel du mot sceptique, c'est un détournement de... Et évidemment, comme on le sait, c'est les mêmes qui ont nié et dénié la question des cigarettes et du lien avec le cancer, etc. Et puis maintenant, on a quand même beaucoup d'études très précises sur l'organisation de cette dénégation.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi une dimension géopolitique. Donc c'est ça que j'ai essayé de capter. Qu'est-ce que ça change à la plainte continuelle dans laquelle on est sur la régression de tous les différents peuples en ce moment, si on dit, oui mais attendez, en fait c'est vrai, ils ont raison. Le monde vers lequel on allait, qu'on appelait globalisation, il n'a pas été décrit de façon réaliste. Puisqu'il faudrait 5 terres pour le faire. Donc est-ce que au fond, derrière cette accusation que vous faites beaucoup trop rapidement, que c'est des gens populistes, que c'est un mouvement, disons, réactionnaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une alliance politique possible, en disant, mais ces gens-là, qui veulent être protégés, qui se disent, qui veulent appartenir à un sol, ce ne sont pas forcément des réacs.
Ouais.
Il se passe quelque chose d'autre. Au moins, essayer de réfléchir à d'autres formes de connexion avec eux, surtout si c'est vrai, en général, comme on le lit tous les jours dans la presse, que le monde vers lequel on allait, il n'a pas d'existence durable.
Ouais, donc c'est ce que vous faites, vous donnez des clés pour essayer de définir les choses justement et faire des propositions qu'on va décrire avec vous.
Un tout petit déplacement des affects politiques, c'est très petit ce que je fais.
Georges Loudy, est-ce qu'il n'est pas trop tard, les problèmes, les cataclysmes environnementaux qui se succèdent et qui impactent de plus en plus fort notre planète, sécheresse, incendie, inondation, ouragan, bref une accélération à laquelle les réponses se font attendre malgré la COP21.
Oui, mais c'est justement ce que j'essaie de prendre en compte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces nouvelles, qui sont effectivement constantes? Et en même temps, on voit bien qu'on n'a pas les outils politiques, on n'a même pas les outils moraux, je dirais. On n'a même pas les outils psychologiques pour absorber. C'est quand même pas à nous de nous occuper de la planète. Jamais personne n'a eu à s'occuper de cette affaire de planète. C'est ridicule. La taille des phénomènes, la complexité de la vie planétaire, c'est impossible. Donc ça nous met dans une situation, disons, d'anxiété.
Pourquoi on ne devrait pas s'en occuper, Bruno Latour? Parce que les événements sont trop gros pour nous?
On n'a jamais eu à le faire. On vivait depuis 13 000 ans dans l'Holocène, qui était quand même relativement tranquille.
On y est encore, climatique. A priori, c'est pas officiellement.
Il y a une dispute,
on n'est pas encore sorti officiellement de l'Holocène.
Personne n'a été éduqué à vivre avec sur son dos et sur ses épaules la responsabilité de la planète. Vous n'avez pas l'équipement mental, moral, affectif, disons, pour s'en occuper. Donc ça rend fou. Et je pense que c'est ça qui est grave, c'est que ça rend fou en ce moment. Et c'est là où il faut faire un petit travail thérapeutique. Ah oui, mais vous savez, c'est peut-être en fait tout simplement parce qu'on est en train de changer d'orientation. Et c'est cet changement d'orientation qui m'intéresse.
Docteur Bruno Latour, on se retrouve dans un instant.
Je reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu ma lueur, autant que tu veux. Et vole vers moi. Oui, vole vers nous. Laisse-moi te guider, te mener au bout de nos rêves. L'horizon est à nous, je penserai toutes nos peines. Écoute un peu ma voix.
ou l'aurore. Je suis toi, tu es moi, et je vole vers toi. Oui, je vole vers nous.
Sandra Knack à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Bruno Latour, Où atterrir, comment s'orienter en politique? Cet ouvrage sort aux éditions La Découverte et les auditeurs vous adressent ces messages nombreux sur le site de l'émission, comme Claude qui nous dit ceci, un sujet tabou et qui pourtant n'est pas négligeable et que peu de scientifiques de politique évoquent, c'est la démographie. On annonce plus de 9 milliards d'habitants en 2100.
Bah, j'ai l'éléphant dans la pièce, hein, la question démographique. Mmh. Elle apparaît évidemment de façon... c'est toujours de nouveau quelque chose qui rend fou. Parce que d'un côté, évidemment, dès qu'on parle de démographie en termes de nombre de gens, on rentre dans les politiques qui sont, comme celle d'ailleurs de Lovelock, que j'aime beaucoup, mais qui voulait passer de 9 milliards d'individus à 300 millions, parce qu'il prétend que c'est la capacité, disons, de la Terre.
C'est un peu radical, quand même. Hein.
Donc c'était, et ouais. Ou inversement, on sait qu'on peut très bien être 9 milliards si on trouve les ressources et si on change complètement le mode d'existence de nos sociétés. Mmh. Entre les deux, il y a le fait que la question a été traduite de façon assez catastrophique par la question migratoire et la question des migrants écologiques. Et là, je crois que l'auditeur a raison. Personne ne s'organise, en tout cas, on n'organise pas nos sociétés en fonction de l'évidence de migration écologiste, enfin pour des raisons écologiques massives, et qu'il va falloir bien, qui demande une transformation assez profonde de ce qu'on appelle l'accueil, de ce qu'on appelle la transformation de l'Europe, parce que c'est surtout en fait en Europe que ça va se passer. Et c'est l'événement politique, je pense, qui traduit en négatif pour le moment auprès des gens, justement, ceux dont on parlait, c'est-à-dire ceux qu'on accuse d'être réactionnaires, la question climatique. Pour moi, les deux sont liés. Mmh. On comprend pas grand-chose à la question climatique, mais on voit arriver, on voit arriver les migrants. Et c'est malheureusement contre eux que se déclenche, en quelque sorte, l'hostilité, alors qu'ils sont simplement un des éléments d'une transformation de justement, un atterrissage sur une terre où on va être 9 milliards, ouais. Et où il va falloir trouver les ressources, et où il va falloir arriver à ce que ça ne soit pas la guerre.
Sauf que vous dites que le monde est tellement déboussolé qu'au fond, tout le monde cherche son sol aussi aujourd'hui, d'une certaine manière.
Bah, hein. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour modifier, toujours, on parle d'affect, hein, thérapeutique, ouais. Là, l'attitude des gens sur les migrants, en disant, oui, mais d'accord, eux, ils bougent parce que leur terre est en train, effectivement, de se transformer, aussi pour des raisons économiques, d'ailleurs, pas simplement climatiques. Mm-hmm. Mais la vôtre, vous qui vous dites envahis, regardez, la terre sur laquelle vous voulez revenir... La terre du Front National ou la terre du Brexit, c'est une terre qui n'existe pas non plus. Donc vous aussi, vous êtes en situation d'incertitude. Donc peut-être regardons en commun qu'est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on atterrit. C'est la seule chose que je vois qui nous permet de nous, oui. Disons, de dégrader un petit peu les énormes passions de résistance qui se chez tout le monde, hein, et c'est tout à fait compréhensible, qui se déclenche quand on parle de migration.
Et puis il y a cette frange aussi que vous décrivez comme étant hors sol, précisément. Hein. Ça, c'est celle des élites et des amis de Trump. C'est pas mon ami Trump.
Enfin, je veux dire, c'est celui dont vous venez.
C'est ça. Non, c'est pas mon ami. Mais il y a effectivement cette frange.
Il y en a deux. Il y a ceux des hyper modernistes qui continuent à exister d'une façon extrême. Mm. Le nouveau livre. Qui s'appelle Homo Deus, est tout à fait typique de cette hype, comme on dit en anglais, de cet enthousiasme fou pour la modernité. Ouais. En gros, ça veut dire les ordinateurs, les robots, etc.
Les âmes transformées. Ouais.
Tout à fait classiquement futuriste, disons. Mm-hmm. Et puis, il y a la version hors sol, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, elle donne assez précisément le sens inverse, en négatif, de là où on va atterrir. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire de dire je vous promets simultanément le capitalisme le plus sauvage et la défense de votre identité. Ça, c'est complètement impossible. Ouais. Ça n'est possible qu'à une seule condition, s'il y a un déni complet de la situation climatique. Alors à ce moment-là, on peut effectivement dire on va continuer indéfiniment à se développer les États-Unis et en même temps, on va se protéger de tout le monde.
Ouais, donc c'est ce mouvement qui se met hors contrainte aussi, hein, c'est hors sol là, pour les décrire.
On le voit en ce moment, hein. De façon très systématique, chaque jour quasiment, il y a une nouvelle preuve de ce que je n'osais pas imaginé quand j'ai écrit le livre avant le 1er juin 2017.
Effectivement.
J'espérais me tromper.
Ouais. Vous êtes très pessimiste hein, quand même dans ce livre. Tout ça va se finir dans un déluge de feu autour de Trump, justement. Trump, c'est quand même pas très optimiste.
C'est une déclaration de guerre quand même.
Donc, un déluge de feu aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant, non?
Je dis ce qu'on dit. Je discute pas mal avec les gens de l'école de guerre qui me disent, mais toutes les questions dont vous parlez, pas dans ce livre-là, mais dans le livre précédent, Face à Gaïa, c'est des questions qu'on discute. D'ailleurs, la question écologique, faut pas oublier, la première fois qu'elle a vraiment est devenue centrale, c'est en 45, et c'est le département de la guerre américain.
Ouais.
Donc on se trompe tout à fait quand on s'étonne du lien entre guerre et... C'est une question qui est complètement liée à l'histoire de la guerre.
Et l'atome. Parce qu'il y a guerre et il y a aussi la bombe atomique.
Il y a eu la période, disons, la répétition générale de toutes ces questions avec la bombe atomique. Ensuite, avec l'hiver nucléaire qui était une possibilité de transformation complète. Cette fois-ci, il faisait plus froid. C'était pas le chaud. Mais les militaires sont particulièrement sensibles à cette question. D'ailleurs, y compris les militaires américains, dans leur dernier plan stratégique, dont j'ai oublié le nom, ils sont pas du tout d'accord avec leur président. Ils disent la question écologique est essentielle. Le problème, c'est que tout ça effraie.
Ben, il y a de quoi.
Oui, mais en même temps, c'est pour ça que je suis pas du tout pessimiste, moi. Ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu à ce qu'on espère de la politique et ce qu'on attend. C'est pour ça que c'est une question de répartition d'affect. Il y en a un mauvais affect, si vous voulez, dans le catastrophisme. Et il y a un mauvais affect dans le retour de se dire, replions-nous sur des identités traditionnelles. Donc il faut trouver les bons réglages.
Donc il y a la proposition terrestre, celle que vous préconisez, Bruno Latour.
C'est un bel horizon, ça.
Voilà, entre les ondes gravitationnelles très très haut.
Ah, elle a une chance formidable, invitée. Oui.
Et puis le local, simplement local, il y a cette idée d'appartenir à la Terre, d'être terrestre. C'est ce terme, parce qu'il faut nommer les choses, et c'est le terme que vous proposez.
J'en ai pas de bien, parce que terrestre... C'est pas tout à fait la même chose que d'être regardé par terre, et c'est pas le retour à la terre de l'époque de Vichy non plus. C'est pas la terre ne ment pas. c'est pas du tout ce régime-là. Ouais. C'est précisément la terre des gens avec qui je travaille, qui sont des scientifiques, qui n'ont pas du tout le bonheur de votre invité, parce qu'elle, elle travaille sur l'espace, et la personne pour venir l'emmerder en lui disant ce que vous dites sur les ondes gravitationnelles, ça perturbe notre économie, ça va nous empêcher de nous développer, etc., etc. Pas d'une seconde. Donc c'est là où il faut respecter ces scientifiques qui sont au milieu des controverses et qui ne pourront pas s'en tirer comme les scientifiques du climat.
Et le rôle de la science, il est central, justement, dans ces questions de politique.
C'est pour ça que là c'est un cas où il faut faire de la très bonne sociologie des sciences et de la très bonne anthropologie des sciences, parce qu'il faut à la fois respecter ces scientifiques qui sont aux prises avec des débats dont ils ne savent pas comment s'en tirer. Les scientifiques du climat ont été persécutés, certains ont dû changer leurs enfants d'école parce qu'ils étaient persécutés par les négationnistes, c'est une situation très violente. Et en même temps, il y a, comme vous le savez dans votre émission, souvent, si on pense à des tas d'autres questions comme les produits chimiques ou les OGM, d'autres scientifiques qui sont, au contraire, très facilement achetés par les pouvoirs. Donc il faut se former aussi des alliances à l'intérieur des activités scientifiques, à l'intérieur des sciences, de façon à pouvoir construire de nouveau des liens politiques forts.
Donc l'idée, Bruno Latour, ce serait de dire aussi, on ne se parle plus entre humains, mais entre terriens, c'est ça?
Terrestre, oui, je sais pas le mot. Entre si on dit terrien, ça fait un peu science-fiction.
Oui, bon, entre terrestre, c'est pas un peu étonnant non plus, non?
On n'a pas de mot pour ça, mais humain, ça veut dire humus.
Ouais.
Donc on peut garder humain, si vous voulez,
pas
pour
mal,
pas choquer
même.
Trop.
Ouais. Paul nous dit, est-ce qu'il n'y a pas de Duprix sur la prétendue conversion à l'écologie des grands de ce monde, ce greenwashing dont tout le monde a envie de se parer là aujourd'hui? Parce que le livre, c'est aussi une grosse critique, une grande critique de l'écologie. Hein.
Non, c'est pas une critique, c'est une...
Vous dites pour l'instant, en matière de politique écologique, on n'a rien eu de convaincant quand même.
Oui, mais ça, de M. Hulot à M. Jadot, à M. Hamon, tout le monde vous dira que ça c'est vrai, que le pouvoir politique, disons, l'intensité de mobilisation sur les questions écologiques continue à être opposée aux questions sociales.
Pourquoi? Parce que justement l'écologie a voulu dépasser les clivages gauche-droite et en fait elle n'a pas su donner de cap très, très clair.
Non, je crois que c'est pas. C'est peut-être un peu de leur faute, mais c'est aussi qu'ils n'ont pas été suivis et que on a considéré que finalement la question terrestre justement n'était pas une question sociale. C'était pas une question d'injustice. Et maintenant, on le voit que c'est une question d'injustice, puisque grâce aux migrants écologistes, aux migrants climatiques, mais aussi parce que toutes les questions de déplacement d'usines, aussi bien que raciale, aussi bien que de genre, aussi bien que familiale, aussi bien que d'éducation. On voit bien que c'est des questions de territoire et d'occupation de territoire. Donc si on remplace ces questions écologiques qui paraissaient un peu loin par des questions d'occupation et de distribution et d'habitation de territoire, tout le monde se dit « bah oui, ça c'est vrai, en fait, c'est mes questions à moi ». C'est des questions qui me concernent. Le problème, c'est qu'on a de la peine à savoir en politique qu'est-ce qui vous concerne. C'est quoi vos intérêts? On a des gens qui ont des opinions, on a des gens qui défendent des valeurs, on a des gens qui ont des blessures à mettre en avant, mais si on dit, mais vos intérêts, c'est quoi? Décrivez-moi les intérêts, décrivez précisément dans quel monde pratique vous prétendez vivre.
Alors ça, ça a été fait d'ailleurs, vous nous le rappelez, hein, c'était un moment de l'histoire avec un inventaire qui a été fait au moment de la pré-révolution, donc c'était en 1789, pendant six mois intensifs où on a demandé à quasiment toute la population.
Et c'est un événement dont, que les historiens de la Révolution connaissent bien, que les petits élèves apprennent en sixième ou cinquième, je ne sais plus, mais qui je trouve est d'une pertinence pour maintenant absolument extraordinaire. Parce que d'abord, ça se fait sans Internet. En six mois, tous les villages de France et tous les ordres, parce qu'il y avait trois ordres à l'époque, sont capables, et pas simplement les villages, d'ailleurs les villes et les professions et les différents, comment est-ce qu'on appelle, les différentes ligues, sont capables de décrire assez précisément leurs intérêts. Alors évidemment, dans une situation de banqueroute, puisque le roi n'a pas un sou, et il s'est complètement dévalorisé avec sa politique. Donc c'est un cas passionnant.
Donc c'est des cahiers de doléances, et on y met quoi alors exactement? Sa réalité du sol, bon, justement
nous avons, alors c'est, le problème c'est que c'est des villages, qui disent, un village entier, il y a une communauté villageoise. Maintenant c'est déjà plus dur de faire une communauté villageoise. Mais qui disent, cette forêt-là on nous l'a piquée, ce chemin qui traverse, on paye, mais personne ne l'utilise de chez nous. Nous, on a des chemins complètement démolis, et c'est les nobles qui l'utilisent avec des carrosses, c'est pas juste. Là, on voudrait pouvoir pêcher, etc. Et c'est très précis, c'est pas mètre par mètre. Mais
on pourrait s'en inspirer aujourd'hui
c'est l'idéal de ce qu'il faudrait faire.
C'est un
modèle. Parce que là, au moins, vous savez quels sont les intérêts. Et c'est pas simplement des plaintes et des opinions. Voilà à quoi je tiens, voilà ce que je veux faire. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile maintenant. Parce que la globalisation rend justement opaque toute une série. Si je vous demande qu'est-ce qui vous fait vivre, ben vous allez me dire c'est peut-être France Inter, etc. Mais vous les journalistes, vous allez avoir de la peine à faire un groupe qui va décrire quels sont vos intérêts. Peut-être vous allez y arriver. Peut-être vous y arrivez par vos syndicats, sauf si vos syndicats font pas leur boulot. Et si les syndicats font leur boulot, c'est que vous avez fait pour vous, avec vos collègues, ce travail de description. Donc c'est pour ça que ça paraît bizarre, mais moi je ne propose pas de programme. Je suis absolument pas placé pour proposer un programme. Mais je dis, regardons les cahiers de doléances, il s'est passé là quelque chose d'extraordinaire. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. I'm enamored. Way up in the sky.
You the XX sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Bruno Latour, où atterrir et comment s'orienter en politique? C'est une proposition avec ce livre qui paraît aux éditions de La Découverte. Le théâtre, c'est toujours un bon vecteur pour transmettre des idées, Bruno Latour, et sur la question climatique en particulier?
Pas pour transmettre, mais pour essayer d'explorer et d'approfondir les idées. Parce que le théâtre, il transmet pas.
Ah oui, vous utilisez le théâtre finalement pour maturer?
Ben, ouais. Le théâtre, c'est pas fait pour transmettre. Le théâtre, c'est fait pour approfondir des...
Oui, mais on peut dire des choses aussi aux gens qui viennent vous voir, non?
Oui, mais enfin, ça voudrait dire qu'on ferait, on faisait de la pédagogie. Je fais aussi ça. Je suis aussi prof. Ouais. Enfin, j'étais. Mais il faut tout faire. Prof, ça, c'est des cours. Mm-hmm. Ensuite, il faut faire du théâtre. Ensuite, il faut faire des conférences spectacles. Ça, c'est un intermédiaire entre les deux.
Ça.
Et ensuite, il faut faire des il faut faire tout, quoi, pour essayer de tourner par tous les moyens possibles autour de cette question qui rend fou.
Ouais. Et vous tournez dans le monde entier, justement, avec les conférences spectacles, par exemple?
Pas dans le monde entier, mais grâce à Frédéric Aitouati et des artistes avec qui je travaille, on essaie de faire de renouveler un peu la conférence spectacle. D'habitude, c'est des artistes qui imitent les professeurs.
Ouais.
Là, c'est un professeur qui imite les artistes.
Et pourquoi on vous voici pas en France, finalement, Bruno Latour, avec ce type d'exercice?
En France, je suis tranquille. Il faut que je travaille aussi quand même un peu.
Oui, d'accord. Très bien. Les auditeurs nous écrivent avec ces messages. Jean nous dit, la disparition du mouvement des écologistes politiques avec les Verts n'est-il pas une mauvaise chose justement pour faire bouger les lignes? On a besoin d'eux, des écolos, ou pas en politique?
Non,
alors
non, je crois que là maintenant, c'est plus une question de parti, c'est une question de civilisation.
Ouais.
Ça va. C'est pas forcément par les partis. D'ailleurs, les partis sont tous en train de chercher où est-ce qu'ils sont en ce moment. Il ne faut pas oublier que la politique, au sens, disons, des partis, c'est juste la surface. Le reste, c'est ce que font les gens. Et si on regarde ce que font les gens, enfin, le travail de la société civile sur toutes les questions écologiques est absolument colossal. Simplement, il n'est pas absorbé ou retenu par les partis. Parce que je pense que les partis ont, précisément, ils sont orientés vers quelque chose d'un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se renouveler. Mais pour le moment, c'est de nouveau ce que je disais. Ils ne peuvent que écrémer des mouvements qui existent. Si le mouvement n'existe pas, ils ne peuvent pas les écrémer.
Alors justement, en parlant de surface, vous parlez d'une sorte de couche, une sorte de peau qui s'appelle, que vous nommez la zone critique. C'est quoi exactement sur Terre, sur notre globe, que cette zone critique? C'est là où tout se passe finalement?
C'est assez curieux, j'ai découvert ça en retravaillant avec des scientifiques, en prenant mon ancien métier de sociologue des sciences. Mais en fait, quand vous travaillez sur la zone critique, c'est-à-dire sur la surface, disons les 3 kilomètres en dessous des roches un peu démolies, et les quelques centaines de mètres ou kilomètres en haut, vous avez tout ce qu'on sait sur la vie.
Donc en quelques kilomètres entre l'atmosphère finalement et les roches mères, on a cette zone critique.
On a tout ce qu'on appelle ce que nous connaissons, tous les vivants. Et donc ça m'a surpris parce que moi je pensais que les sciences naturelles c'est les sciences de l'univers, comme notre invité tout à l'heure, qui s'intéresse aux ondes gravitationnelles, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai et c'est pas vrai. Les zones critiques, ou Gaïa pour lui donner son nom technique, ou système Terre si on veut un nom plus savant, c'est une minuscule couche par rapport à l'ensemble de l'univers. Et en plus, elle est techniquement et scientifiquement très différente. C'est ça qu'on découvre justement en ce moment, c'est qu'elle est extraordinairement hétérogène et complexe par rapport à ce qu'on peut dire du reste de l'univers, qui est d'une complexité énorme, mais pas au niveau d'un sol, ou pas au niveau d'un arbre, ou pas au niveau d'un écosystème, et surtout pas au niveau d'un écosystème impacté par les humains, qui rajoute une autre complexité.
Ouais.
Donc, c'est ça qui m'a frappé dans votre émission, en commençant par les gens. Je me suis dit, mais elle a un tel plaisir, cette dame. Ouais. Elle étudie des choses formidables, qui nous enthousiasment tous, et personne ne vient l'embêter.
Ouais.
Tandis que chacun des scientifiques...
Vous avez aimé ce rendez-vous avec les ondes gravitationnelles.
C'est le début de ma discipline.
Ouais.
Et quand on arrive avec les gens des zones critiques, soit géologues, hydrologues, pédologues, agronomistes, etc., ils sont tous au milieu de disputes insolubles. Ouais. Et en plus, ils sont opposés par des puissances qui s'opposent à ce qu'ils disent, que ce soit sur les questions de pêche ou sur les questions d'agriculture. Donc il y a une vraie différence, je pense, qu'il faut capter entre dans les sciences naturelles. Ouais. Il y a l'histoire naturelle, disons, au sens traditionnel du terme, le sens de Humboldt, d'ailleurs, le sens du 19e siècle, qu'il faut réinstituer, je pense. Et puis il y a les sciences de l'univers ou les sciences de la Terre profonde qui s'occupent de choses passionnantes avec des instruments, mais qui ne sont pas engagées dans la vie politique comme les autres. Ouais. Et c'est ça que j'ai découvert. Et ensuite, j'ai découvert que c'était très compliqué et ça paraissait très surprenant aux gens de leur dire, mais attendez, c'est pas des sciences du globe terrestre, c'est des sciences de la peau.
Oui, c'est ça.
De la surface de
la zone critique.
Et si je demande à quelqu'un, est-ce que vous avez une expérience de quoi que ce soit qui soit hors de cette zone critique et pas par un instrument, c'est la réponse, vrai. Non. Bien sûr que non. Donc, c'est une espèce de réalisation soudaine que, évidemment, Lovelock avait parfaitement vu. Lovelock est celui qui a inventé l'hypothèse Gaïa et qui m'intéresse depuis une vingtaine d'années à cause de ça. Oui, il a vu quelque chose de la spécificité et de l'originalité de cette zone critique.
Vous dites même qu'il faudrait mieux parler de zone critique que de planète, alors aujourd'hui.
Oui, parce que la planète, ça implique le cœur de la Terre, mais bon, c'est pas le cœur de la Terre, on y a accès par des instruments et personne ne va disputer. Tandis, et de même, d'ailleurs, la Terre vue d'en haut, vue de loin, à mon avis, on n'est pas sur la planète bleue. La planète bleue, c'est une image qui est finalement assez fausse. Enfin, l'image est vraie, mais elle ne donne pas la situation anthropologique, la situation cosmologique, disons, pour prendre un terme d'anthropologie dans lequel on se trouve.
Bruno Latour, il y a deux choses qui vous tiennent à cœur, justement, entre autres dans cet ouvrage, c'est évoquer la zone critique, et puis terminer par un plaidoyer pour l'Europe aussi. Hein.
Oui, c'est assez curieux, tout le monde trouve très surprenant que je dise du bien de l'Europe.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, ça m'étonne, l'Europe c'est notre patrie.
Ouais, en tout cas, vous consacrez la fin du livre à cela. Hein.
Oui, parce que moi je commence mon petit exercice de dire quels sont vos intérêts, à quoi on appartient. Mm-hmm. Faites-le, chacun le fait, et puis on verra où on appartient. C'est ça l'idée des cahiers de doléances, en quelque sorte. Je commence à écrire mon cahier de doléances.
Voilà. Avec cette proposition, en tout cas, qui s'appelle « Où atterrir ?» ou « Comment s'orienter en politique ?» C'est cet ouvrage qui paraît donc aux éditions La Découverte. Est-ce que l'indignation collective manque aujourd'hui, Bruno Latour, pour terminer ?
L'indignation, non. C'est pas un sentiment riche, l'indignation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les affects positifs. Ouais. Il faut trouver des affects positifs correspondant à une crise immense qui rend fou. S'indigner, c'est pas du tout... indignez-vous, je crois, c'était un terme.
C'est ça, ouais.
Oui. Non, c'est pas du tout les bons affects que je cherche. C'est des affects presque pervers, je dirais.
Merci, Bruno Latour, d'être passé dans La Tête au Carré cet après-midi.
Merci beaucoup.
À bientôt.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et ce soir, 20h50 sur France 5, nous partons pour l'Angleterre, sur le célèbre site des pierres levées des Stonehenge. Bonjour, Perrine Poubeau.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes conseillère des programmes et ce documentaire est intitulé Opération Stonehenge.
Oui Mathieu, nous partons ce soir pour l'un des sites les plus connus de la préhistoire en Europe. Stonehenge fait partie de notre patrimoine à tous. C'est un sujet d'étude et de débat constant entre les scientifiques.
Alors c'est un site qui a déjà connu beaucoup de fouilles. Est-ce qu'on fait encore de nouvelles découvertes là-bas ?
Oui, c'est le cas et c'est tout l'objet de notre film de ce soir. On va suivre des archéologues qui ont participé à un projet exceptionnel qu'ils ont baptisé le paysage caché de Stonehenge. En fait, ils ont passé au crible toute la région autour de Stonehenge grâce à un radar très puissant. Et ce radar a permis une analyse du sous-sol et produit une cartographie très précise du site grâce à cette nouvelle technologie. On en sait aujourd'hui beaucoup plus sur qui étaient les bâtisseurs de Stonehenge, pourquoi ils ont choisi ce site. Et puis l'une des grandes révélations de notre enquête de ce soir, c'est surtout que ces pierres levées n'étaient pas isolées dans le paysage.
Eh bien, on va écouter justement un extrait de ce documentaire, Opération Stonehenge.
En tout, près de 20 nouvelles constructions ont été découvertes. Tous ces sanctuaires, dans une zone que l'on croyait jusque-là déserte, ont démontré que Stonehenge n'était pas et n'avait jamais été isolé.
On sait désormais qu'il n'était pas unique et qu'il y avait une série de monuments similaires. Certains équivalaient peut-être à nos chapelles de campagne, là où les familles se rendent pour des occasions particulières.
Voilà, Perrine Poubeau, on pourrait comparer Stonehenge à une sorte de cathédrale de la préhistoire, c'est ça ?
Oui, c'est vrai que Vince Gaffney, le scientifique, nous explique dans cet extrait que Stonehenge était entouré de ces petites chapelles Et on pourrait dire que Stonehenge, c'est vraiment la cathédrale, qu'elle était réservée à des rites pour les grandes occasions, qui rythmaient alors la vie des hommes au néolithique. Et on sait maintenant que les architectes de Stonehenge étaient des grands géomètres, qu'ils observaient les astres. Mmh. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils orientaient les mégalithes de telle façon que le soleil se lève dans l'axe du monument au solstice d'hiver, qui avait une valeur symbolique extrêmement forte. Il avait alors un symbole de renouveau.
Voilà, ça s'appelle donc Opération Stone Age. C'est ce soir dans Science Grand Format sur France 5 à partir de 20h50. Perrine Poubeault, merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui dans la Tête au Carré. Bonne semaine à vous. À
bientôt. Merci, au revoir.